Bonjour à tous. Au micro, Sylvie Ligi, qui, malgré les orages et la chaleur, vous présente le nouveau numéro des Chroniques pour la paix. Émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. Alors, les députés du CHAS et de Yahad Outatora ont démissionné la semaine dernière. En cause, le service militaire des jeunes étudiants des yeshivot, des écoles talmudiques. En gros, Netanyahou leur avait promis d'inscrire dans la loi la dispense de service militaire de tous les étudiants de yeshivot. Et il ne l'a pas fait, pas encore. On est en droit de s'interroger. Et qu'est-ce que ces démissions en série vont changer dans l'équation des pros et des anti-conscriptions de tous, Haredim, ultra-orthodoxes, donc y compris? Comment Netanyahou peut-il tirer parti de la fin de la session parlementaire qui va arriver là dans quelques jours? Alors avec nous aujourd'hui pour en parler, un ex-montpelliérain qui vit depuis 35 ans dans un kibboutz, l'un des rares encore en activité, Tsouba, près de Jérusalem. Membre de longue date du Parti travailliste Avoda, Marco Sarabia, est devenu membre de l'Assemblée des délégués du Parti Les Démocrates, mené par Yair Golan, lorsque celui-ci a réuni Avoda et Meretz à l'été 2024. Bonjour Marco.
Bonjour, bonjour Sylvie, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors donc lundi 14 juillet, en Israël, c'était pas la même fête qu'en France, le parti orthodoxe Yahad Outatora, judaïsme unifié de la Torah, a décidé de quitter le gouvernement et la coalition de Benjamin Netanyahou, je cite, conformément aux instructions du rabbin Dov Lando, 95 ans, d'après donc ce qu'ils ont déclaré, le même Dov Lando, chef spirituel de Degel HaTorah, qui en mars dernier avait interdit aux étudiants des yeshivot de se présenter au bureau de recrutement de Tzahal. Et voilà. Et deux jours plus tard, c'est au tour de plusieurs ministres du parti Chasse d'annoncer leur démission du gouvernement. Le Chasse, rappelons-le, dont le chef spirituel était le grand rabbin Ovadia Yosef et dont le président est toujours Arié Deri. Donc, ministres et députés quittent la coalition en raison d'un désaccord sur la question du service militaire des élèves de Yeshiva. Marco Sarabia, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots, depuis quand les élèves de Yeshiva ne font pas leur service militaire?
Alors, tout d'abord, remettre dans son contexte, c'est que quand même le sujet lui-même dont nos députés et nos ministres sont préoccupés est un peu intolérable au moment où la guerre se prolonge à Gaza, où un soldat tombe tous les jours, pratiquement tous les jours, et la situation d'urgence, le problème intérieur du pays est catastrophique, la pauvreté s'étend, les réfugiés n'ont pas tous rejoint leur maison dans le nord du pays, et même pas dans le sud non plus. Alors, c'est que qu'on remette pour les auditeurs français le contexte scandaleux justement de ce problème, parce que c'est un problème de coalition, d'accord de coalition, de promesses électorales, et donc je trouve ça vraiment terrible de s'occuper de ça au moment où 50 otages croupissent dans les tunnels du Hamas. Mais bon, puisque on en parle, je vais peut-être dire quelques mots justement sur le sujet, bon, parce que c'est d'actualité. Et en 1948, Ben-Gurion avait autorisé une liste très limitée d'exemptions de services militaires. C'était 400 étudiants de yeshivot, et 400 vraiment, c'était pour les talmidim chachamim, pour les élèves les plus doués. Et en 1967, ils ont un peu augmenté le quota à 800, et puis ça a commencé vraiment à prendre des proportions énormes à partir du moment où Begin est monté au pouvoir en 1977, où il a assoupli complètement les conditions d'exemption. Et en l'an 2000, Ehud Barak, qui était à l'époque Premier ministre, a monté une commission qui s'appelle la commission environnemental et qui a abouti à une loi en 2002, une loi TAL, qui justement essaie de réglementer le sujet de l'exemption. Alors, et il permettait quand même une voie de sortie, c'est-à-dire que l'étudiant yeshiva pouvait travailler et en même temps s'engager à l'armée et puis éventuellement ou alors rester en yeshiva ou alors même faire un service civil. Cette loi a permis quand même d'agrandir le nombre de Haredim qui faisaient l'armée en fait.
Voilà, mais Haredim, donc les ultra-orthodoxes.
Les ultra-orthodoxes, voilà. Et aussi bien les séfarades que les ashkénazes. Hein. Mm-hmm.
Et que s'est-il passé en avril 2024? Il me semble qu'il y a eu... que la Cour suprême a... l'année dernière...
Il faut juste un dernier mot de l'étape de l'évolution. Il y a eu énormément d'appels et à cette décision qui était un peu discriminatoire en fait, parce que elle enfreint le principe de l'égalité entre les gens, quoi. Et c'est-à-dire que c'était absolument intolérable, surtout que le pays a toujours été menacé. En fait, quand on y pense, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des menaces, et rares ont été les périodes de prospérité, de calme et de paix. Alors, et cette loi est impopulaire. Alors, il y a un an, en fait, le tribunal a renvoyé un peu le sujet et au gouvernement pour qu'il décide, pour fasse une loi, parce que chaque fois, en fait, et les associations civiles, elle demandait un recours à la Cour suprême, et la Cour suprême, en fait, chaque fois, elle a un petit peu tergiversé, parce qu'en fait, c'est pas à elle de convenir les valeurs de ce pays, c'est aux législateurs, c'est à la Knesset, et la Cour suprême peut juste vérifier s'il n'y a pas une enfreinte à la loi. Mmh. Et telle que la situation est actuelle, et le sujet n'a pas été résolu, donc il y a un an, le tribunal a refusé de trancher et a relancé a exigé du gouvernement de donner une réponse légale à ce problème. Alors, depuis un an, en fait, il travaille dessus cette loi de l'exemption pour essayer de faire une exemption gratuite, quoi, c'est-à-dire uniquement selon le nombre d'étudiants dans les yeshivot. Et le problème, le nombre
revenons en fait à cette affaire de démission. Donc c'est parti, là, aussi bien le Chas que Yahad Utatoura, qui sont dans la coalition, qui sont au gouvernement. Eux, ils veulent, si j'ai bien compris, que ce soit inscrit dans la loi, l'exemption soit inscrite dans la loi. Et c'est pas très populaire en Israël, puisque ça fait deux poids, deux mesures. Il y en a qui ont un fardeau lourd sur les épaules, et les autres qui vont prier ou travailler la Torah dans leurs écoles. Et alors, mais pourquoi est-ce qu'ils ont démissionné? Parce que s'ils ont démissionné, ils n'ont plus d'influence, du coup, et puis ils n'ont plus...
Alors justement, c'est très sophistiqué de l'histoire, parce qu'en fait, le dilemme, c'est que l'armée a besoin de soldats. Et auparavant, on avait besoin juste de moyens très sophistiqués, de technologies et de renseignements. Maintenant, on a vraiment besoin de soldats sur le terrain. Mmh. Et donc, l'armée envoie de plus en plus de convocations aux Haredim et pour faire l'armée, aux jeunes Haredim. Et en fait, pour qu'on ait une idée, il s'agit de peut-être 60 000, 70 000 jeunes ultra-orthodoxes qui sont en âge de faire l'armée. Hein. C'est chaque année, quoi. C'est oui. énorme. Quoi.
Oui, 70 000, c'est beaucoup, oui.
Oui, alors... Il y a quelques milliers seulement qui se sont engagés. C'est vraiment un petit nombre. Alors, le dilemme, c'est Le et certains partisans de cette coalition, quand même, ont des problèmes de conscience. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont une conscience et ils se sentent pas bien qu'il n'y ait pas de sanction à celui qui est déserteur. Et le Yuli Edelstein, qui est le président de la commission de la défense et des affaires étrangères, il a dit que cette loi ne pourrait pas passer s'il n'y a pas de vraies sanctions et contre les déserteurs. Et parce que si c'est un laïc qui ne se présente pas à l'armée, il va en prison. Mmh. Il va en prison carrément. Déserteur va en prison. Et tandis qu'un ultra-orthodoxe, non, ben comme il est ultra-protégé par ses députés, il se débine. Donc déjà, et c'était la première faille au sein de la coalition. Mais ils sont quand même très sophistiqués, les Haredim. Pourquoi ? Parce que la démission, ça ne veut pas dire qu'ils vont voter contre le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont démissionné du gouvernement, mais Ch'as, par exemple, reste dans la coalition. C'est-à-dire que ses députés vont continuer à influencer ce qui se passe à la Knesset. Et plus encore, c'est que les chefs de cabinet de tous ces ministères dont ils démissionnent ont été nommés par Ch'as. Et donc, le chef de cabinet continue à travailler pour Ch'as, en fait.
Ah, le ministre change, mais pas le chef de cabinet.
Voilà. Et donc, Aryeh Deri, c'est un fin renard très, très, très intelligent de la politique. Et il a compris comment continuer à obtenir... Parce que, en fait, quand on est dans la coalition, c'est avant tout les budgets qui sont intéressants. Les budgets qu'on peut utiliser à des fins électorales.
Voilà, c'est pour ça que c'est étonnant qu'ils aient démissionné. Parce que du coup, ils n'ont plus de budget.
C'est vrai, mais ils vont continuer à influencer. C'est-à-dire le Yadut HaTorah, c'est-à-dire le parti Ashkenaz, ultra-orthodoxe, il est vraiment démissionné du gouvernement et de la coalition, mais ils ont encore certains sous-fifres qui sont dans les commissions de la Knesset et qui vont continuer à influencer aussi les décisions. Surtout la commission des finances de la Knesset qui était présidée par Gafni, qui est un député très expérimenté, qui est à la Knesset depuis peut-être 30 ans, je ne sais pas combien, et qui était un bon député, qui savait gérer la commission, mais il connaît très bien tous les rouages justement de la politique, et par exemple, il a démissionné, mais comme par hasard, hier, il a présidé un débat de cette même commission, comme par hasard, sur des budgets.
Pour conclure, la presse française titre que c'est un coup dur pour Netanyahou, un revers politique, qu'il est fragilisé. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'après ce que vous dites, il n'a pas l'air en très mauvaise posture, finalement. Si. Comment il va ressouder sa coalition ?
Alors c'est simple. D'abord, il prépare déjà ses prochaines élections. Mmh. C'est-à-dire qu'ils font passer plein de lois. Et d'abord, il y a une autre raison pour laquelle les orthodoxes ont démissionné, c'est qu'ils ont été trompés. Et ils ont fait le Likoud leur a dit il faut faire passer la réforme judiciaire. En fait, la réforme judiciaire, c'est un début de dictature, afin de donner au gouvernement tous les pouvoirs, afin de faire passer l'exemption des orthodoxes. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'en agrandissant le pouvoir du gouvernement, on arriverait à faire passer cette loi. Mais il s'avère qu'ils n'ont pas réussi, et parce qu'il y a des résistances même à l'intérieur de la coalition. Mmh. Ce qu'ils vont faire, c'est continuer la réforme judiciaire et donc renforcer encore plus les prérogatives du gouvernement et de la coalition, et peut-être même en chemin donner plein de cadeaux aux orthodoxes, surtout des cadeaux financiers, et qui vont permettre peut-être de survivre jusqu'aux prochaines élections dans un an. C'est-à-dire qu'il est fragilisé, mais comme c'est un vieux renard politique, Bibi Netanyahou, il arrivera peut-être à... C'est par exemple s'il continue la guerre, alors tant qu'il continue la guerre, il aura le bon prétexte de ne pas organiser des élections. Et donc, il trouvera le moyen de convaincre les députés du Likoud. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, et je pense que les apparences sont trompeuses, c'est juste un moyen de pression des orthodoxes afin d'obtenir plus de choses du gouvernement, et peut-être même, avec toutes les lois fascistes qui vont passer, il se peut qu'ils arriveront à faire passer la loi de l'exemption. Mais c'est pas sûr du tout. Hein. En tout cas, la réforme judiciaire n'a pas encore accompli. C'est-à-dire, toutes les semaines, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, et pour plusieurs raisons. D'abord pour libérer les otages, pour arrêter la guerre, mais aussi pour arrêter la réforme judiciaire. Oui. Parce que la réforme judiciaire nous emmène au fascisme.
Alors, Marco Sarabia, on pourrait en parler longtemps. Malheureusement, cette tentative de détruire la démocratie perdure déjà depuis janvier 2023, et on n'en est pas encore arrivé au bout. En tous les cas, pour cette affaire de démission, ça a été très clair, et je vous en remercie beaucoup. Voilà, maintenant on comprend un petit peu comment tout ça marche. Merci Marco Sarabia.
Eh bien, bonne chance dans toutes vos émissions, et puis merci de faire entendre la voix de la paix, de la lucidité en France. C'est très important d'avoir un autre son de cloche. Bonne chance à Israël, je peux dire. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est qu'Israël retrouve un peu de sérénité et de tranquillité.
Merci.
Et qu'on ramène les otages au plus tôt.